bon, moi, j'habitais au deuxième étage de la Villa Tchèque. Et puis, assez souvent, dans les squats, on entendait dire qu'on allait être évacués, etc. Et vers 4 heures du matin, je crois, 3h30, 4h, 4h30, je ne sais plus, j'ai entendu du bruit de portes brisées au rez-de-chaussée. Et là, je me suis réveillée, puis je me suis dit, ça y est, ça commence.
Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Je devais avoir 10 ans, 15 ans, je ne sais plus, quand le téléphone a sonné chez moi au milieu de la nuit. Je l'entends encore. Une de ces vieilles sonneries mécaniques qui réveillent toute la maison. Il y avait une tension palpable. Quelque chose de sérieux devait s'être passé. Mon père, avocat, avait dû s'habiller précipitamment et partir. Le lendemain, ou peut-être plus tard, on m'a probablement raconté l'incident. J'en ai gardé une image mentale floue, une sorte de rêve, réunissant mon père, des squatteurs, une rue la nuit, des flics, et mon oncle, le frère de mon père, qui était alors conseiller d'État, chef du département genevois de justice et police. Je ne me suis jamais vraiment demandé qui était à l'origine de ce téléphone nocturne. Mais récemment, au détour d'une discussion avec un ami, j'ai appris ce qui s'était passé il y a 33 ans à la Maison Tchèque, un squat genevois dans le quartier de Villereuse, pas très loin de là où j'ai grandi. Une histoire impliquant mon oncle et qui semblait correspondre à mon souvenir. J'ai voulu savoir plus précisément ce qui s'était passé, compléter ma mémoire, et j'ai mené mon enquête. J'ai retrouvé des archives de presse afin de me faire une idée de cette époque, et surtout j'ai interrogé Claire, David, Loulou, Pascal, Raoul et mon oncle Bernard.
Je vivais au rez-de-chaussée, j'étais installé dans le salon. On avait toujours les portes ouvertes, donc les gens pouvaient entrer et sortir de l'immeuble très facilement. Et puis, y a un type qui est rentré dans le salon. Je savais pas qui c'était. Donc je me suis levé, je suis allé vers lui. Et puis, il m'a dit bonsoir. Et j'ai voulu lui tendre la main pour lui dire bonsoir. Et il m'a tendu une bonbonne de gaz lacrymogène qu'il a activée sur mes yeux directement. Et il a crié « police ». Et puis, je me suis aperçu que l'attaque avait lieu dans plusieurs chambres en même temps, parce que j'ai entendu des cris au-dessus, des mouvements, tout s'est déroulé à peu près en même temps.
Moi, j'habitais au rez-de-chaussée, ce qui fait que moi, j'étais une des personnes qui a été touchée en premier. C'est pour ça que c'était assez violent. Moi, j'étais dans ma chambre, et je me suis fait attaquer, je me suis fait réveiller au lacrymogène, moi. Directement. Ce qui était vraiment pas cool.
Ouais, bah moi je dormais. Hein. Je dormais avec. Je crois que j'étais avec ma copine de l'époque. On dormait dans la piole. Et puis tout à coup la porte qui s'ouvre, ça crie police. On reçoit des lacrymos dans la gueule, direct, dans le lit. Quoi.
Je me souviens que je le lisais. Un livre que je n'ai jamais plus osé ouvrir depuis. Si tu vois, c'était Les Voyageurs anglais au temps de Shakespeare. Voilà, c'était ça que j'étais en train de lire. Et je me souviens, tout à coup, il y avait des bruits tout à fait bizarres, des cris. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Je sors et je reçois une dose de bombe lacrymo dans le visage. Je ne voyais plus rien.
La porte de ma chambre s'est ouverte. Un gars que je ne connaissais pas, qui avait l'air d'être assez jeune, qui devait avoir, je pense, 25 ans à tout casser. Il ouvre la porte, il me voit, il a l'air tout surpris. Et puis, il me dit, veuillez me suivre, s'il vous plaît. Police.
Le mec, il n'avait pas de masque, qui m'a mis une lacrymogène dans la gueule. Bah, il nous a traînés, moi j'étais à moitié nu, traînés, bâillonnés, ligotés. Puis on avait été jetés dans la pièce principale du salon, où dormait David.
Il m'a dit de me mettre à plat ventre et il m'a attaché les mains dans le dos et il m'a mis un baillon. Alors, c'était pas un baillon, c'était pas un scotch qui me recouvrait complètement la bouche. J'ai pas vraiment compris ce geste. C'était juste un truc dans la bouche, quoi. Mais je pouvais crier, je pouvais faire ce que je voulais. J'étais plutôt tétanisé et je comprenais pas trop ce qui se passait.
J'arrive au rez-de-chaussée. Là, il y a un grand gars, une armoire à glace, masqué avec une espèce de masque souple, soit de Gorbatchev, soit de Reagan, un truc comme ça, qui crie à l'autre, hey, « Tu la laisses pas passer tu la tiens !» Et il m'attrape et me pousse dans l'appartement du rez-de-chaussée. J'arrive dans le grand salon dans lequel un ami, David, dormait. Enfin, là, il dormait pas, mais... et je vois dans cette pièce Loulou et David couchés sur un lit, attachés, bâillonnés. Et je suis tellement interloquée que quelqu'un me pousse, je tombe à genoux, me repousse, je tombe à plat ventre. Je me fais attacher les pieds, attacher les mains, bâillonnés par un scotch.
Je pense, on a dû s'habiller vite fait et puis... Et puis se faire traîner au rez-de-chaussée, quoi. De toute façon, on était au deuxième étage, au premier ou deuxième, premier étage. Ouais.
J'étais maîtrisé par des mecs qui m'ont mené dans l'escalier, dans le colimaçon. Je voyais plus rien, je voyais rien. Je pouvais à chaque marche me casser la gueule ou Dieu sait quoi. Puis ces mecs, ils étaient là, c'était vraiment un peu la lie. Les mecs, ils savaient pas s'y prendre, ça se voyait tout de suite. Puis arrivé en bas, j'ai repris peu à peu mes esprits et mes yeux leur facilité à voir. Et là, j'ai vu les mecs qui habitaient la maison. Filles, mecs, ligotés au sol avec une bande de scotch pardon, sur la gueule.
Comment ça se rendre compte qu'ils ont un accent qui n'était pas un accent de Genève, quoi.
Il y avait des gens masqués, puis des gens pas masqués. Les gens pas masqués, c'était ceux qui venaient de Paris, je pense, bah, qu'on a découvert après. Et puis ceux qui étaient masqués, bah, c'était des gens d'ici.
J'avais vraiment l'impression d'être dans un film. Et puis il y avait encore des bruits autour de fracas de portes, des gens qui crient, etc.
Très rapidement, Fredo a crié que c'était pas la police.
J'ai vu Fredo se débattre.
Il y avait quelqu'un du squat qui criait « c'est pas des flics, c'est pas des flics ».
Parce qu'il a commencé à parler. Et il parlait, ça a commencé à poser un souci.
Je sais pas, il y a eu un moment de flottement.
Un des masques, il a dit, mais vous inquiétez pas, on va quand même pas vous tuer.
Il y a eu une confusion, ça courait. Donc j'entendais que des bruits, hein, parce que je pouvais pas voir ce qui se passait, évidemment, avec le gaz lacrymogène.
J'ai commencé à taper autour de moi avec la chaise.
Il y a eu un bris de glace, une fenêtre qui a pété. Une chaise qui a volé.
Et il a cassé une vitre avec ses bras.
Il y en a qui ont réussi à s'échapper par les fenêtres.
Ça se battait derrière moi.
Ils m'ont précipité par la fenêtre de la véranda.
Et il a crié au secours. Et je crois que ça les a mis en panique. Parce qu'il y avait un poste de police 100 mètres en dessous.
Là, j'ai été réceptionné par un type qui a été condamné depuis, qui était un détective privé. Qui m'a foutu un coup de pied dans les testicules. Il a mal visé parce qu'il ne devait pas savoir très bien où étaient les siennes, donc il n'a pas dû situer les miennes immédiatement. Il m'a tapé l'intérieur du genou. J'ai fait comme si j'avais reçu le coup, j'ai glissé le long du mur, puis il est rentré à l'intérieur. Et moi, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais ? Alors, j'ai passé le mur d'enceinte, tu vois lequel c'est, là, celui qui est derrière, dans le jardin, à l'extrémité, la pointe. Passé le mur d'enceinte et j'ai commencé à courir, mais je ne savais pas du tout où j'allais. J'avais l'épaule en sang parce que j'avais pris du verre dans le bras. Et je me suis dit, il faut que j'aille chez les flics.
Il y a quelqu'un qui vient vers moi, puis qui me détache, puis j'arrive à me tourner un peu la tête. Et je vois des pantalons noirs avec des rangers aux chaussures. Puis je me dis, mais pourquoi il vient de m'attacher? Pourquoi il me détache? Puis en fait, c'était Dirk qui était en train de me libérer les pieds. Et il me libère les mains, je me lève, je m'enlève le scotch. Et à ce moment-là, je vais pour sortir. Et il y a des gars qui reviennent à fond. Moi, je me suis plaquée contre la porte de la pièce. Et puis, je me suis dit, je suis transparente, j'existe pas, on me voit pas, je suis transparente.
J'ai senti quelqu'un qui touchait mes mains. Et c'était Claire qui m'a détaché les mains. Et qui m'a dit, David, fais quelque chose. Et je savais pas quoi faire, évidemment, j'étais pas un Superman. Donc j'ai essayé de me lever, d'aller voir ce qui se passait. Et en fait, je suis tombé sur un des gars qui m'a pris par le col et puis qui m'a emmené à l'extérieur du bâtiment.
À ce moment, moi, j'ai réussi à libérer les mains de deux personnes quoi, qui étaient attachées. Mais en fait, donc on, plus partir. Moi, j'ai pas eu le réflexe de partir, donc je me suis rechopé, quoi.
Et là, ils ont choisi quelques personnes qui étaient que des hommes et ils les ont embarqués. On a commencé à discuter un peu avec les autres habitants qui arrivaient des deux autres maisons. Et puis, on a décidé de lancer la chaîne. Parce que dans l'immeuble, il n'y avait pas de téléphone. Moi, les téléphones portables, on ne les avait pas encore. Et je suis partie avec mon vélo. J'ai été chez mon père qui habitait aux Eaux-Vives. Et là, j'ai lancé la chaîne téléphonique, qui était une chaîne qu'on avait mise en place avec toutes les maisons squattées. Et puis des avocats.
Je me suis retrouvé dans le collège Canevin. Couru comme un dératé, quoi. Puis ensuite, je me suis dit, bon, calmons-nous. Puis je suis descendu au poste de police, au Glacis de Rive. C'était en face. Et là, j'ai été accueilli par la police. Puis j'étais en sang, vêtements déchirés, tout comme ça. Et je parquais dans la réalité, la nuit. Hein. Et qu'est-ce que c'est? On vient d'être attaqué, là, le père du garage en haut, là. On vient d'être attaqué par je ne sais pas quoi, etc. Puis les flics qui disent entre eux, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est les squatteurs qui ont besoin de la police.
Le Courrier, 21 juillet 1993. Un tout petit peu d'histoire. En 1980, les jeunesses de Zurich et de Lausanne bougent. Les manifestations se multiplient pour l'obtention de centres autonomes. À Genève, c'est plutôt la question du logement qui mobilise les troupes. Ainsi naissent les premiers squats, rue Argan et rue du Conseil Général en 1982. Aux revendications relatives au logement s'ajoutent celles concernant des espaces d'expression rock. Et en vertu du dicton punk « Do it yourself », les occupants aménagent les caves en salle de concert. À la rue de la Terrassière, une cave est squattée en 1983 pour la musique. On suivit l'îlot 13 en 1986, Rino et la cave 12 en 1988, le triangle de Villereuse avec le théâtre du garage et la maison chèque en 1990. Le début de la décennie 1990 voit un foisonnement d'occupations. Des lieux culturels apparaissent dans nombre de squats. Actuellement, on dénombre une trentaine de logements occupés à Genève, une des villes les plus squattées du monde.
Arrivé à l'extérieur, j'ai essayé de cligner à l'inverse mes yeux pour voir un petit peu ce qui se passait comme ça. J'ai vu qu'il y avait une camionnette et qu'il y avait déjà deux ou trois personnes qui étaient déjà allongées dans la camionnette. Et le type m'a dit de monter dans la camionnette.
Donc on s'est retrouvé couché dans des fourgons. Alors bon, ben je pensais qu'on allait finir dans le lac, quoi. C'était vraiment flippant à ce moment-là, quoi.
Très rapidement, ben ils ont fermé les portes de la camionnette et puis on est parti. On savait pas où on allait. Je me rappelle que j'ai essayé de parler, de poser des questions. Ils nous ont dit de nous taire. Donc on est resté un peu silencieux. Et je savais pas du tout ce qu'ils allaient faire. Ça roulait, et puis à un moment donné, il y a un type qui dit à l'autre, qui lui pose une question, et ça m'a terrorisé. Il lui a demandé, on fait comment, on les descend un par un? Et quand j'ai entendu cette phrase, je me suis dit, bon là ça va vraiment très 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 mal. Et je sais pas si ce type a dit ça pour nous faire peur ou s'il a dit ça parce qu'il nous parlait de nous descendre de la camionnette. Mais en tout cas, sur le moment, moi, ça m'a terrorisé.
On a roulé un moment. Et jusqu'à ce qu'ils nous... En fait, ils nous ont ouvert la porte, là, dans... c'était où, à Coligny, je crois, dans le quartier. Sous réserve, mais c'était par là-bas, quoi.
Et ils nous font descendre de la camionnette, ils en prennent un premier, puis moi. Et là, la peur a pris le dessus. Et j'ai dit au bonhomme, mais vous n'allez pas nous tuer, quand même. Je ne sais pas si j'ai utilisé ce mot-là, ou descendre, mais il ne m'a pas répondu. Il m'a dit, ouvre les yeux. Je dis, mais je ne peux pas. Et il m'a dit, oui, tu dois pouvoir maintenant. Alors j'essaye. Puis j'ai ouvert légèrement les yeux, comme ça. Puis je voyais un peu des ombres autour. Puis il me dit, tu connais cet endroit? Je lui dis, non. Et là, il m'a fait avancer, il m'a amené vers un portail.
Et en fait, ils nous ont attachés au portail de je sais plus qui c'était, le procureur de l'époque, ou enfin, quelqu'un qui était capable d'avoir une baraque là-bas. je me souviens plus qui c'était, quoi.
Il y avait déjà Raoul, qui était attaché au portail, il me semble, et peut-être Dirk, je sais plus dans quel ordre, mais et donc ils m'ont amené vers ce portail et ils m'ont attaché au portail, et après je sais plus, je crois pas qu'on a été tous attachés, je crois qu'on était peut-être trois attachés ou quatre, et puis ils ont lancé des tracts. Ils ont lancé des tracts, une poignée de tracts comme ça en l'air, ils sont remontés dans le camion, ils sont partis. Ah, je crois même que, en fait, le propriétaire de la maison du portail a réagi. Et je crois qu'il est sorti de la maison, il a dit « qu'est-ce qui se passe ?» ou un truc comme ça. Et ça, ça les a fait partir.
À l'époque, j'étais conseiller d'État en charge du département de justice et police. Donc c'était moi le patron de la police, si on veut. Et effectivement, un matin du début de l'automne, alors que j'étais à mon domicile, tout d'un coup, j'ai entendu du bruit au portail du jardin. C'était aux aurores le matin. Je suis sorti de la maison pour voir ce qui se passait. Et puis j'ai vu des espèces de figures noires qui avaient l'air de secouer mon portail. Alors j'ai rétro-pédalé pour tout de suite appeler la police qui, vu mes fonctions, est évidemment intervenue extrêmement rapidement. Et il s'est avéré qu'en réalité, la figure noire dont j'imaginais que ça pouvait être des cambrioleurs était en réalité des squatters qui avaient été enchaînés à mon portail.
On a réussi à se libérer avant que les flics arrivent. Donc on a commencé à errer dans ce quartier... moi, j'avais juste envie d'une chose, c'était d'une clope, quoi.
Très vite, il y a une voiture de police qui est arrivée. Le temps qu'elle arrive, on s'était détachés les uns les autres. On était frigorifiés parce que c'était, je crois, au mois de novembre, ou décembre peut-être, mais il faisait très froid, en tout cas, je me souviens. Et puis on était encore en culotte parce qu'on était au lit, ça devait être autour de 4 heures du matin.
Au moment où j'arrive à avoir une clope, là, les flics arrivent et ils disent ouais, les mains en l'air, lâchez votre cigarette et tout. Je dis c'est la seule clope que j'ai pas envie de la lâcher. Et puis ah bon, j'ai quand même dû le faire, quoi. Donc ouais, là on s'est encore fait braquer par les flics. C'était assez violent aussi, en fait, après tout ça, de se refaire. Donc, je ne sais pas s'ils ne savaient pas si c'était nous les agresseurs ou les agressés, quoi. Mais...
Et donc, les policiers sont arrivés. Ils avaient l'air d'être au courant de ce qui se passait, plus que nous. Et ils nous ont fait rentrer dans la voiture pour nous ramener. Alors, je me rappelle, j'avais encore plus froid parce que le fait de rouler avec les fenêtres ouvertes, ça augmentait le froid et ils ne pouvaient pas rouler avec la fenêtre fermée à cause du lacrymogène qu'on avait sur les corps. Ils n'arrivaient plus, eux, les policiers, à regarder, ils n'arrivaient plus à conduire à cause des lacrymos qui émanaient de la voiture. Donc il a été obligé de rouler avec les fenêtres ouvertes.
Je me souviens de quoi qu'on s'est retrouvé. Ben, on est rentré au garage, quoi. Il y a une conférence qu'on a organisée, ou je ne sais plus, enfin bon, en tout cas, il y a des journalistes, quoi. Donc il y a une conférence de presse avec une photo, tout ça. Et je me souviens que ça nous a desservi parce que. Ben moi, en tout cas, je souriais à fond quoi, sur la photo parce que j'étais tellement content d'être vivant en fait que. Là, c'était la décompression quoi, en fait, du truc. Quoi. Alors je sais que. Donc sur cette photo, je sais qu'elle a fait un peu du tort parce que. Bah parce que les gens, bah regardez, ils sourient. C'est pas très grave ce qui leur est arrivé, quoi.
Il y avait des journalistes partout. Et on a dû faire des interviews à ce moment-là. Ils nous ont demandé ce qui s'était passé. On a un peu raconté ce qui s'était passé. Et puis, quand ils sont partis, il y a deux policiers qui sont venus et qui m'ont embarqué. Parce que j'avais des amendes impayées. Ah ouais. Donc c'était une matinée mémorable pour moi, mais compliquée.
Tribune de Genève, 4 mai 1991, quelques mois avant l'attaque. Les squatters peuvent dormir tranquillement. À Villereuse, dans un ancien garage devenu squat théâtral, on prépare la manifestation fête de ce samedi. Musique, théâtre, buvette et jeux sont annoncés. Il s'agit de rameuter les énergies avant la votation municipale qui doit fixer la densité de construction d'une partie du triangle. Il s'agit aussi de resserrer les liens de solidarité en prévision d'une évacuation que la trentaine de squatteurs installés dans les trois villas du périmètre depuis janvier 1990 disent imminente. Le promoteur a obtenu tous les feux verts pour abattre la maison Chèque, une des trois villas qui doivent être démolies pour permettre la réalisation du projet immobilier dit des Jardins de Malagnou. Il a bien l'intention de faire donner les bulldozers avant la fin du mois de mai, a-t-il confié. En fait, l'évacuation a peu de chances d'intervenir avant la votation. Selon le procureur général, le chantier de Villereuse ne peut pas démarrer puisqu'il manque au promoteur deux autorisations de démolir. Autorisation qu'il avait obtenue mais qu'il a oublié de faire prolonger. Or, sans ces feux verts, le projet de construction n'est pas réalisable. Conclusion provisoire du procureur, je n'exécute pas le jugement d'évacuation si c'est pour laisser un immeuble vide.
Bah, c'est une infraction pénale. Hein. Je me souviens plus s'il y a eu après des procédures ou pas, mais c'est de la violation de domicile à l'envers. Hein. Et puis du délit de contrainte. Hein. Donc a priori, c'est évidemment aussi un comportement qui tombe sous le coup de la loi, quoi.
En fait, toutes les personnes qui avaient été séquestrées, c'est-à-dire tous les habitants de la Villa Chèque qui ont été emmenés en bas au rez-de-chaussée, attachés, bâillonnés, on s'est retrouvés au tribunal face à nos agresseurs.
Alors moi, je ne me souviens pas d'avoir été au procès. Du tout, quoi. En tout cas, j'en ai plus souvenir. Quoi. Ce qui est étonnant, d'ailleurs.
J'ai quelques souvenirs comme ça de ces gars qui tombaient des nus parce qu'ils racontaient qu'on leur avait dit qu'il y avait des gens qui étaient qu'ils allaient virer des junks, etc. Des gens qui étaient dans un sale état.
Non, c'est très étrange de se retrouver en face de la justice. Tu vois, parce que tu sais que ta parole est vraiment en jeu.
Je ne sais plus quand non plus, si c'était 2 jours ou 2 semaines ou 2 mois après. Donc il y a eu tribunal. On y était. Donc on a porté plainte. Et c'est là qu'on a appris un petit peu qu'est-ce qui s'était passé. Donc j'avais appris qu'en fait il y avait 3 des personnes, des attaquants, qui étaient restés sur place pour enlever probablement des preuves ou quelque chose comme ça. Et ils se sont fait arrêter par la police. Et voilà, donc c'est avec eux qu'ils ont réussi à retrouver en fait le détective qu'ils avaient engagé pour l'attaque, qui avait touché quelque chose, qui avait touché 30 000 francs pour ça. Il avait engagé 10 personnes à Paris, qu'il avait payé 500 francs chacun. Ouais. et puis, le détective a dénoncé son commanditaire, qui était le promoteur à l'époque, qui voulait faire un projet à Ville-Rose. Je ne me rappelle plus de son nom.
Donc quoi, il pouvait faire un coup politique en nous attachant sur cette barrière.
Ils trouvaient que c'était scandaleux que la police ne fasse pas son travail et ils ont décidé de faire le travail à la place de la police pour montrer que c'était facile à faire.
Et voilà, c'était un peu pour dénoncer l'incurie du procureur, non, de la police, des autorités et tout ça, et puis cette espèce de tolérance par rapport à ces trucs qui sont complètement, vraiment hors société.
Et puis il y a eu le jugement qui a fait que c'était un mois de prison qu'ils avaient déjà fait, et puis des dédommagements. Et ces dédommagements financiers, c'était 1 000 francs par tête de pipe pour les gens qui avaient été attachés au portail et 500 francs pour les autres.
Pour une attaque. Bon, c'était bien de la rigolade, quoi.
Ce qui n'est pas suffisant pour une caution d'un appartement, par exemple.
Journal de Genève, 30 juin 1992, un an après l'attaque. La villa tchèque préservée. Miracle ! Le nouveau plan de quartier est le fruit d'un accord entre promoteurs et associations d'habitants. Dans l'ensemble, ce plan respecte les principales revendications du comité d'initiative. Il prévoit notamment le maintien de la villa tchèque, qui pourrait être affectée à des fins administratives et qui conserverait une petite zone de verdure tout à la pointe du triangle. La qualité urbanistique du projet est toutefois critiquée par ce représentant des habitants. À première vue, il me semble que l'esprit de l'initiative n'a finalement pas été respecté. Il s'agissait à l'origine d'intégrer la villa tchèque dans un ensemble d'habitations modernes, mais du même volume. Or, l'immeuble prévu dans son dos la coupe du reste du périmètre, au risque de l'empailler, dit-il. L'ensemble des groupes d'habitants du quartier fera connaître sa position officielle dès qu'il aura consulté le plan localisé. À quand le dernier épisode de la saga du Triangle Maudit ?
Oui, ça a laissé des traces, lesquelles je ne saurais pas, véritablement. Je ne suis pas versé dans la psychologie, ces choses-là, mais je pense que oui, il y a des empreintes qui restent, des peurs. C'est très étrange. Pendant des années, je n'ai pas pu prendre l'ascenseur. J'habite au cinquième étage. Et ce qui fait que mon médecin a trouvé que j'avais un cœur parfaitement en forme. Mais au-delà de ça, au-delà de cet avantage, c'était pas bon. J'en avais marre de monter à pied les cinq étages uniquement parce que tout d'un coup, il y avait quelque chose où j'avais l'impression que dès lors que je me trouvais dans un espace restreint, j'étais totalement oppressé. Et c'est venu après. Après ça.
Ça a changé des attitudes. J'étais longtemps sur le qui-vive, mais tant que les bruits sont des bruits de fête ou de gens joyeux, etc., ça va très bien, je les intègre très bien. Mais dès qu'il y a un bruit un peu suspect, comme un cri de détresse ou bien des choses qui sont cassées ou quoi, tout de suite je suis alertée, enfin tout de suite je me réveille, par exemple, dans mon sommeil, et je vais voir.
Au début, quelques mois qui ont suivi cette agression, une mauvaise nuit, des angoisses. Et pas paralysantes, à partir desquelles je me suis dit, il faut travailler là-dessus, il faut écrire là-dessus, il faut faire quelque chose, et sortir d'une manière ou d'une autre.
C'est qu'une fois, j'ai accueilli un gars qui rentrait dans une maison squattée avec un pique-feu, parce qu'il est rentré un peu bruyamment à 6 heures du matin, et puis je l'ai accueilli avec un pique-feu, c'était un ami, mais bon, voilà.
Ouais, bon, c'est un des traumatismes de ma vie, quoi. Un gros traumatisme dans ma vie, quoi. Après, c'est aussi toujours ce... Voilà, c'est un moment aussi où je pense qu'il y a... où on se dit, ouais, peut-être qu'on a manqué de courage à un moment, tu vois, qu'il aurait fallu se battre, ou qu'il aurait fallu ci ou ça, quoi. Bah, ce qui n'est pas évident, quoi, parce que sur le moment, on a une espèce de choc émotionnel qui est fort, quoi. Donc, ouais, y a ceux qui ont réussi à se battre un peu et à s'échapper, et puis ceux qui se sont retrouvés plutôt figés, quoi. Comme moi.
C'est pour ça que je te dis que des fois, ça m'arrive encore de mettre des meubles devant ma porte pour pouvoir dormir, parce qu'autrement, j'arrive pas à dormir. J'y pense plus directement, mais je le fais quand même. Moi, je pense qu'on vit avec, que ça ne se tombe pas vraiment. C'est qu'on vit juste avec. C'est que tu t'apprends à vivre comme plein de traumatismes.
C'est la nuit, devant une maison squattée. On est à Genève, dans une rue du quartier de Villereuse. À l'intérieur du squat, on entend des bruits de portes, des cris étouffés, une vitre qui vole en éclats. Devant la maison, personne. Soudain, Claire en surgit, tremblante d'adrénaline. Elle monte sur son vélo et fonce à l'atelier de son père pour trouver un téléphone et lancer un appel à l'aide. Chez moi, la vieille sonnerie mécanique retentit, réveillant toute la maison. Mon père, avocat, qui figure certainement sur la liste de cette chaîne téléphonique des squats, s'habille précipitamment et part. J'en aurai jamais la preuve, mais maintenant, je me dis que c'est elle, Claire, quelque part dans la nuit, qui m'a réveillé indirectement un peu avant l'aube. Je me dis aussi que c'est la violence absurde et inacceptable faite à quelques personnes cette nuit-là que j'ai ressentie et qui a laissé une trace dans ma mémoire. Et même si j'ai pas été réveillé à coups de gaz lacrymogène, cette histoire me laisse tout de même un fort sentiment de stupeur, d'incompréhension et de colère. Bizarrement, j'ai été mêlé moi aussi le 23 septembre 1991 à cet épisode de la période des squats. Une période qui s'est achevée en juillet 2007 avec l'évacuation de deux squats emblématiques, marquant la fin de 30 ans d'expérimentation sociale, culturelle et politique qui a durablement marqué la cité de Calvin.
Parce qu'il faut remettre des mots sur des choses difficiles. C'est ce que disait Wittgenstein. Mal nommer une chose, c'est ajouter au malheur du monde.
Évacuation musclée. Un podcast réalisé par Mathieu Tsigler, produit par Radio Bascule et très efficacement squatté par l'écriture et le montage de Liliana Dias, le mixage d'Adrien Kessler, la musique de Gozov Kermer et les témoignages généreux de Claire, David, Loulou, Pascal, Raoul et Bernard.